Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
La démolition en Namibie d'un monument rappelant l'époque de la colonisation allemande crée la polémique. Sébastien Martineau, notre envoyé spécial, a fait sa petite enquête à suivre en première partie de ce magazine. Le second volet sera consacré à la revue des sujets africains parue cette semaine dans la presse allemande. C'est Afropresse et nous retrouvons Marie-Ange Piron. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus, bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver.
Ravi aussi de vous retrouver. Alors dites-nous en filigrane de quoi il sera question tout à l'heure.
Eh bien, il sera question, comme vous pouvez l'imaginer encore, de la République centrafricaine. On parlera aussi du Soudan du Sud, du Nigeria et puis de thèmes plus environnementaux.
On vous retrouve donc tout à l'heure et voilà pour le sommaire d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous. En Namibie donc, un monument plus que centenaire fait couler beaucoup d'encre. En effet, au cours de la nuit du 24 au 25 décembre 2013, sur ordre des autorités, la statue équestre du Reit Denkmal, datant de l'époque coloniale allemande, a été démontée. C'est l'incompréhension au sein de la communauté germanophone. Elle ne cache pas sa colère et promet de faire appel de cette décision. Une décision qui ramène sur le devant de la scène namibienne la polémique sur la poignée de monuments qui commémore la victoire des troupes allemandes contre les soulèvements des Herero et des Nama au début du XXe siècle. Reportage à Windhoek de Sébastien Martineau.
Pour de nombreux habitants de Windhoek, les vacances de fin d'année sont l'occasion de quitter la capitale et d'aller chercher un peu d'air frais sur la côte, notamment. Ici, Noël est célébré en plein été austral. C'est donc dans une capitale désertée et en pleine nuit de Noël que le Reit Denkmal a été démonté par des ouvriers asiatiques. Les rues alentour avaient été bloquées par les forces de police. La statue a ensuite été entreposée dans la cour du musée attenant, en attendant de connaître son avenir. Ce qui est certain, c'est qu'elle a d'ores et déjà perdu son statut de monument national. L'annonce avait été faite le 20 décembre par voie de presse, soit 4 jours avant le démontage, une première dans l'histoire de la Namibie. Au sein de la communauté germanophone, les réactions ne se sont pas faites attendre.
Bien sûr, certains germanophones sont très énervés à cause du démontage de la statue, mais je crois que cet énervement concerne davantage les conditions dans lesquelles cela a été fait et non le fait que la statue a été enlevée. Je ne pense pas que l'on puisse dire que les Allemands veulent absolument garder cette statue.
Joren Kutzner est l'ancien directeur des archives nationales de Namibie. Il se dit surpris par le démontage. Selon lui, depuis l'indépendance en 1990, jamais la disparition de ces monuments de l'époque coloniale allemande n'avait semblé être une priorité pour le parti au pouvoir, la SWAPO.
Dans la communauté allemande, les gens se sont inquiétés de ce que le gouvernement SWAPO allait faire de ce monument. Mais depuis cette époque, aucun argument n'a pu être avancé contre le Reit Denkmal ou certaines plaques commémoratives. Alors on a cru que ces monuments allaient rester en place parce que l'on s'est dit, après tout, cela fait partie de l'histoire du pays.
Inauguré en 1912, le Reit Denkmal rend hommage aux victimes allemandes, aussi bien militaires que civiles, des soulèvements Herero et Nama entre 1903 et 1907. Ce chapitre de l'histoire du pays est encore douloureux. Certains historiens, en Namibie et à l'étranger, soutiennent que les troupes allemandes ont tenté d'exterminer ces deux peuples. Le cavalier n'en est pas moins apprécié, y compris par la population noire du pays. C'est ce qui ressort d'un micro-trottoir réalisé par la radio germanophone Itwelio Namibia. Plusieurs habitants de la capitale se disent satisfaits que la statue n'ait pas été détruite et que l'on puisse toujours l'apercevoir dans la cour du musée. Depuis 1990, les autorités de la Namibie indépendante avaient privilégié la réconciliation, estimant que ces monuments de l'époque allemande appartenaient à l'histoire commune de tous les Namibiens. En cette année électorale, elles ont visiblement changé d'avis. Interrogé à ce sujet, le ministère de la Culture a confirmé que le démontage avait été décidé par le gouvernement. Ce n'est pas la première fois que le cavalier voit sa position remise en cause, comme l'explique Andreas Vogt, ancien membre du Conseil national du patrimoine et auteur de plusieurs ouvrages sur les monuments historiques.
Les débats sur les monuments historiques, sur le patrimoine colonial allemand, comme sur tout monument, sont des discussions sans fin. On peut en trouver la trace après la Première Guerre mondiale. La question était alors de savoir si la statue devait rester en place ou être transportée à Pretoria comme symbole de la victoire des Sud-Africains. Et puis, ces débats se calment et peuvent être revitalisés par une nouvelle époque historique. Or, après l'indépendance de la Namibie, la politique de conservation a été poursuivie. On a continué à entretenir la statue pour la simple raison que le patrimoine bénéficie d'une protection officielle.
Il y a 3 ans environ, le cavalier avait déjà dû être déplacé de quelques dizaines de mètres pour laisser la place au futur musée de l'indépendance. Une opération coûteuse, financée à l'époque par la communauté germanophone, qui se demande aujourd'hui à quoi a servi cet argent. Alors, quel avenir pour la statue? Certains aimeraient l'avoir installée au musée national à Berlin. Le débat sur la répression des soulèvements Herero et Nama, lui, est loin d'être clos. Sébastien Martineau, à Windhoek, pour la Deutsche Welle.
La suite d'Afrique 7 jours avec maintenant un tour d'horizon des sujets africains qui ont donc retenu cette semaine l'intérêt de la presse allemande, à commencer, Marie-Ange, par la République centrafricaine après la démission de Michel Djotodia, celui qui avait été porté au pouvoir par les rebelles de la SELECA.
Et tous les journaux le relèvent, Fréjus, son départ a été suivi d'un débordement de haine, d'une orgie de violence. Des dizaines de boutiques appartenant à des musulmans ont été détruites, note Die Tageszeitung. Dans 3 quartiers de Bangui, des mosquées ont été démolies à coups de pioche. Le journal, voyant là un curieux écho à la rage des islamistes radicaux contre les lieux saints soufis au Mali pendant l'été 2012. La TAT se constate aussi que Michel Djotodia est parti au Bénin, un pays qui a toujours été un refuge pour des politiciens centrafricains en exil ou des présidents déchus. François Bozizé, comme son prédécesseur Ange-Félix Patassé, ont tous deux séjourné au Bénin, rappelle le journal. Dans les années 80, alors qu'il était en exil au Bénin, Bozizé a fondé là-bas, comme filiale d'une secte béninoise, le journal parle bien de secte, il a créé donc une secte protestante dénommée Église de la chrétienté céleste. Il a continué de la diriger une fois devenu président. Et souligne le journal, cela a contribué à donner au conflit politique à Bangui sa sanglante dimension religieuse actuelle. La Berliner Zeitung écrit que la démission de Michel Djotodia est un sérieux revers pour les insurgés musulmans de la SELECA, arrivés au pouvoir il y a 10 mois. Cette démission, ajoute le journal, est en partie redevable au gouvernement français. Mais c'est Idriss Déby, le président tchadien, qui a fait pencher la balance. Lui qui au début avait soutenu la rébellion SELECA contre le président chrétien et corrompu François Bozizé. Djotodia, lit-on dans le Tagesspiegel de Berlin, est arrivé au pouvoir avec l'aide du Tchad. Depuis des décennies, la minorité musulmane dans le nord du pays se sent exclue des flux financiers émanant de Bangui et s'est plusieurs fois rebellée. Mais les caisses de l'État étant vides, les miliciens musulmans se sont sentis floués, y compris après le putsch. Le pays est riche en ressources, mais l'économie est par terre, conclut le journal.
La poursuite des combats au Soudan du Sud est un autre sujet, Marie-Ange, qui continue d'intéresser la presse allemande.
Et oui, d'autant que les journaux ont abondamment couvert à l'époque l'accession du pays à l'indépendance. Dans la situation actuelle, Die Tageszeitung retient que l'Ouganda s'implique de plus en plus sur le terrain pour soutenir le président Salva Kiir contre son ancien vice-président et rival Riek Machar. Le journal relate comment du matériel militaire ougandais, dont des chars de combat, sont acheminés de nuit au Soudan du Sud via le poste frontière de Nimoulé. L'Ouganda a envoyé des troupes dès la mi-décembre. À l'époque, l'armée ougandaise affirmait que c'était pour évacuer les travailleurs ougandais de Djouba. Or, poursuit le journal, depuis la semaine passée, presque tous les Ougandais installés au Soudan du Sud ont quitté le pays. Des avions de transport militaire n'en continuent pas moins de décoller de l'aéroport militaire d'Entebbe. Pourquoi ? Un quotidien ougandais, White Paper, rapporte en se référant à des sources sécuritaires que 4500 soldats ougandais gardent des installations stratégiques à Djouba ainsi que des champs de pétrole dans le nord du Soudan du Sud.
14 ans de prison pour quiconque conclut une union homosexuelle, c'est ce que prévoit la loi promulguée au Nigeria par le président Goodluck Jonathan. Cette nouvelle loi durcit un peu plus une législation déjà très hostile aux relations entre personnes du même sexe et cela ne manque pas, Marie-Ange, de susciter des réactions dans la presse allemande.
Comme le note Fréjus, l'hebdomadaire Die Zeit, si Thomas Hitzelsperger était nigérian, il risquerait 14 ans de prison. Ses parents, amis ou collègues pourraient aussi être inculpés pour avoir omis de le livrer aux autorités. Thomas Hitzelsperger, c'est cet ancien footballeur professionnel allemand qui a révélé récemment dans les colonnes de Die Zeit précisément son homosexualité. La nouvelle loi nigériane, précise le journal, est exclusivement préventive, car aucun militant au Nigeria n'a jamais demandé une loi autorisant les mariages entre personnes du même sexe. La répression des homosexuels a trouvé au Nigeria un nouveau motif. Il s'agit de se démarquer plus fortement de l'Occident pour que les citoyens nigérians ne soient pas infectés par les valeurs décadentes de l'Occident. L'homosexualité, rappelle le journal, est interdite dans 76 États, la plupart du temps sur la base de vieilles lois coloniales britanniques.
On termine en parlant de changement climatique, la destruction de l'environnement, la disparition d'espèces animales. Tous ces phénomènes, Marie-Ange, ne concernent pas seulement l'Afrique, mais la presse allemande les illustre cette semaine par des exemples africains.
Changement climatique tout d'abord avec un article de Neues Deutschland dans lequel nous lisons que le Mozambique sera à l'avenir l'un des pays d'Afrique qui souffrira le plus du changement climatique. Cela se traduira, poursuit le journal, par des périodes de sécheresse plus longues, des retards dans la saison des pluies, mais des précipitations plus abondantes, d'où un risque accru pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. En Afrique de l'Ouest, note de son côté la Süddeutsche Zeitung, c'est la survie du roi de la savane qui est menacée. Les terrains de chasse du lion rétrécissent, sa nourriture se raréfie et il a un ennemi qui met tout en œuvre pour faire disparaître le lion d'Afrique. Cet ennemi, c'est l'homme. Dans l'ouest de l'Afrique, il n'y aurait plus que 400 lions, dont 250 adultes, précise le journal.
Afrique 7 jours, c'est déjà la fin. Marie-Ange Piron, Fréjus Kenhomme au micro. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre attention.